Radio Starbucks.
Morning Edition from
NPR.
Que se reproduce y esto en la radio.
France Inter. Le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde nous emmène au Royaume-Uni ce soir où un parti monte. En tout cas, il ne se veut ni conservateur ni travailliste, mais pro-européen. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Le modèle, c'est En Marche, mais ce nouveau parti, lui, veut faire marche arrière sur le Brexit et vous allez comprendre. Sous les radars, Florence Paracuelos en Afrique du Sud, sans eau en Inde, avec un film qui parle de serviettes hygiéniques. Eh bien oui, c'est une histoire incroyable racontée dans un film. 18h50, Trump, saison 2 avec Grégory Phillips et un président américain qui répond à son courrier et veut croire aussi que l'enquête du FBI c'est fini. 18h55, Jean-Marc Four met le monde à l'envers, voilà que l'Italie se cherche un homme providentiel et qu'il s'appelle Berlusconi. Est-ce que vous le croyez? Mais avant nous allons au Yémen parce qu'Omar Waman revient d'Aden pour France Inter et parce que les choses déjà étaient très compliquées, et bien c'est pire et ça vaut le coup d'essayer de comprendre. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
La scène se passe la semaine dernière à Aden au Yémen, la ville théoriquement contrôlée par les forces pro-gouvernementales fidèles au président Hadi. Des heurts, des tirs, des attaques qui brouillent encore un peu plus le jeu. Et c'est pour ça qu'on en parle ce soir de cette guerre décidément oubliée le plus souvent, mais qui a fait, et il faut le rappeler, presque 10 000 morts. On ne l'oublie pas dans Un jour dans le monde. Bonsoir Omar Waman.
Bonsoir Fabienne.
Aden, je le disais, vous y étiez, vous allez nous raconter longuement ce que vous avez vu et entendu. Bonsoir Laurent Bonnefoy.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous avez écrit notamment « Le Yémen de l'Arabie heureuse à la guerre », c'est chez Fayard. Avant de rejoindre Omar, je voudrais que vous nous expliquiez brièvement, Laurent Bonnefoy, qu'est-ce qui se passe à Aden? Parce que jusque-là, la situation était complexe, mais on va dire résumable. Les rebelles houthis soutenus par l'Iran qui détiennent Sanaa, la capitale, donc c'est le nord. Les forces fidèles au président Hadi, soutenues eux par une coalition arabe, l'Arabie Saoudite, les Émirats au sud. Mais est-ce qu'on peut dire désormais, avec ces tirs, avec ces heurts, avec ces séparatistes à Aden, que la donne a changé, qu'il y a une troisième voie? Est-ce que ça parle aussi de versatilité des alliances? Qu'est-ce qui se passe en fait?
Alors cette troisième voie, elle était latente, hein, je dirais qu'il y avait des tensions qui existaient depuis longtemps au sein du camp qui est décrit comme pro-Hadi, mais en réalité il est plus anti-Houthi que réellement uni. Et c'est bien cette désunion qui est apparue au grand jour la semaine dernière. Mais derrière cette désunion, il y a aussi un certain nombre de désaccords au sein de ce qu'on caractérise comme étant la coalition menée par l'Arabie Saoudite.
Donc ça veut dire qu'il y a une rivalité Arabie Saoudite et Émirats qui vient se greffer à tout ça?
Alors je ne sais pas si on doit dire rivalité, mais il y a simplement une vision qui est sans doute peu compatible, ou deux visions qui sont incompatibles pour ce qui concerne l'avenir du Yémen, avec l'Arabie Saoudite qui semble plutôt soutenir une unité, alors que les Émirats Arabes Unis ont depuis longtemps, semble-t-il, joué la carte du mouvement sécessionniste.
Donc, d'un nouveau séparatisme nord-sud du Yémen.
Oui, ce mouvement sécessionniste est extrêmement bien ancré dans le paysage depuis une bonne décennie. Il est très populaire, sans doute majoritaire, bien qu'on n'ait pas de sondage d'opinion.
Il faut rappeler qu'il y a eu deux Yémen jusqu'en 1990, hein, donc on est en train de revenir aussi sur des bases qu'on connaît déjà.
Tout à fait, mais il y a une forme de trompe-l'œil qui consiste à penser que, et c'est quelque chose que de nombreux sudistes pensent, auxquels ils aspirent, de revenir à l'ancien système du Yémen du Sud. Mais tout simplement, ça semble très difficile, parce qu'il y a un manque de ressources, parce que aussi le leadership est fragmenté, et parce qu'il y a de nombreux acteurs qui sont venus se greffer, notamment des acteurs islamistes armés.
Mais est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui justifie l'attaque de ces nouveaux séparatistes à Aden et donc cette troisième voie dont on parlait à l'instant? Il s'est passé quelque chose ou pas?
Alors rien d'immédiat, mais tout simplement, je pense, une forme de ras-le-bol, la montée en puissance du mouvement sudiste et le ras-le-bol, je l'ai dit, face à ce qu'eux décrivent comme étant la corruption du régime de Hadi. Notamment, ils ont mis un ultimatum pour ça, la démission le remplacement du Premier ministre, mais ça me semble avant tout être un prétexte, tout simplement parce que ça fait de nombreux nombreux mois, si ce n'est années, qu'on se demande quand ça va, d'une certaine manière, se fissurer. Et à partir de quand, finalement, les sudistes vont prendre les devants et directement exiger, finalement, la séparation, si ce n'est eux-mêmes la déclarer.
Laurent Bonnefoy, le fameux ultimatum dont vous parlez, il expirait hier dimanche. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Est-ce qu'il se passe autre chose? Est-ce qu'on est revenu dans une espèce de statu quo?
Alors, il est tout à fait probable qu'on voit dans les semaines qui viennent au moins un apaisement, tout simplement parce que les acteurs ou les sponsors régionaux, donc les Émirats et l'Arabie Saoudite, tentent d'apaiser les tensions. Mais ce qui semble malgré tout acquis, bien qu'il y ait un certain nombre de verrous, et notamment des verrous juridiques et institutionnels liés à la résolution 2216 du Conseil de sécurité
qui dit
que Hadi est le président légitime. Or, Hadi apparaît depuis longtemps, mais de plus en plus, comme étant une forme de roi nu, c'est-à-dire qu'il a une légitimité reconnue par la communauté internationale,
président fantoche, en fait,
mais qui ne correspond à rien du tout sur le terrain.
Et qui n'est pas, il faut le rappeler, qui n'est pas chez lui, il n'est pas à Aden, il est à Riyad, tout seul. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement peut sauter à Aden, qui est un drôle de gouvernement, avec un président donc qui est à Riyad et un Premier ministre contesté? Est-ce que ce gouvernement peut sauter pour amener quoi, finalement, d'autres heures encore?
Alors ça peut faire partie, je dirais, du deal entre les Saoudiens et les Émiratis, de mettre en avant une forme de figure peut-être plus consensuelle, mais quoi qu'il arrive, cette espèce de mécano institutionnel ne réglera pas les tensions et les vraies questions qui se posent, à savoir qu'il faut sans doute répondre à l'aspiration aussi des populations du Sud.
Et on va y venir à ces aspirations, à ce que disent les gens aussi. Omar Waman, vous étiez à Aden au moment des tirs et des heurts de la semaine dernière. C'est ce que vous avez enregistré, c'est ce qu'on entend là derrière nous. Expliquez-nous d'abord comment ça se passe. Est-ce que ça couvait? Est-ce que ça a été soudain, cette attaque séparatiste?
Écoutez, ça couvait, car le président Hadi et son gouvernement sont très impopulaires à Aden. Ils sont accusés de corruption, de clientélisme, de profiter de cette guerre contre les Houthis qui n'en finit plus. La population est excédée, vous allez l'entendre, partout dans la ville. C'est le drapeau de l'ex-Yémen du Sud avec son étoile rouge qui flotte et non pas le drapeau de l'actuel Yémen qui est invisible. Dès les premiers coups de feu dimanche 28 janvier, les habitants sont restés terrés chez eux, mais certains comme Brahim sont sortis malgré le danger.
Je n'ai pas peur, j'ai l'habitude. On a tout connu, les raids aériens, les petites armes, les armes moyennes, les grosses armes, les tanks. On veut juste que ça se termine.
En quelques heures à peine, les séparatistes, lourdement armés, équipés notamment de chars, ont pris le contrôle de larges pans de la ville. Le commandant Amjad Ali.
Nous contrôlons 90% de la ville. Partout où nos forces se sont déployées, nous avons été très bien accueillis par la population, car c'est une guerre entre la vérité et le mensonge. C'est le gouvernement qui est dans l'erreur, pas nous. Il gouverne depuis l'étranger et c'est lui qui a ouvert le feu sur nous. Nous sommes entrés dans la ville pacifiquement et il a tiré sur nous. Il a fait feu sur des manifestants paisibles.
En face, repliés autour du palais présidentiel, les forces loyalistes sont quasiment vaincues. Elles ne contrôlent plus qu'une toute petite enclave. Le lieutenant Mohamed de l'armée régulière se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, les deux camps combattaient côte à côte le même ennemi.
Je suis très triste et je suis sûr qu'ils le sont également. En 2015, nous avons combattu ensemble contre les rebelles Houthis et aujourd'hui, nous nous entretuons.
Omar, une dernière chose quand même, il y a très peu de journalistes évidemment qui accèdent au Yémen, très peu qui peuvent accéder même à cette ville d'Aden d'où vous revenez. Expliquez-nous comment vous êtes entré, vous.
En fait, j'ai demandé un visa, tout simplement un visa pour Aden il y a 6 mois. Que j'ai finalement obtenu. J'avais deux possibilités pour me rendre sur place par la mer, au départ de Djibouti ou en avion. Il faut savoir que l'aéroport d'Aden est un secteur stratégique. Il a été à plusieurs reprises le théâtre d'échanges de tirs ou de combats. Mais quand il y a des accalmies, le trafic peut reprendre. C'était le cas il y a 10 jours avant cette bataille d'Aden, ce qui m'a permis de prendre un vol et d'atterrir à Aden.
Et les vols ont repris depuis les heurts et les tirs de ce week-end ou pas?
Alors, l'aéroport et le port d'Aden sont restés fermés pendant 6 jours. Puis, les premiers vols ont repris. C'était des avions de l'ONU, les Nations Unies, qui ont évacué une partie de leur personnel avant quelques avions de ligne, pas très nombreux, car la situation est très précaire.
Omar, vous restez avec nous parce que vous allez nous raconter aussi comment on vit dans cette ville d'Aden, ce qui explique aussi le ras-le-bol des populations et du coup comment ils ont accueilli aussi les séparatistes qui sont entrés dans la ville. Laurent Bonnefoy, qui les arme, ces gens-là? Vous disiez tout à l'heure qu'entre l'Arabie Saoudite et les Émirats, il y avait des grands lieux de moments de friction. Est-ce que ça veut dire que ce sont les Émirats qui donnent les armes à ces gens-là ou pas?
Oui, les Émirats jouent un grand rôle, mais il faut aussi savoir d'une part que la société yéménite est une société très, très armée, et puis d'autre part, il y a eu des mouvements qui se sont structurés aussi autour de segments de l'armée, et donc il y a un approvisionnement qui est multiple.
Mais est-ce qu'on peut dire désormais, c'est ce qui rend la situation encore plus compliquée, que Arabie Saoudite et Émirats qui se battaient, ou même en faisant semblant, pour aider le gouvernement, désormais sont piégés? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire cesser ces combats? Est-ce qu'ils sont impuissants finalement l'un comme l'autre également?
Alors, je ne sais pas s'ils sont impuissants dans le sens où aujourd'hui, malgré tout, et si on veut d'une certaine manière prendre le Yémen dans son entièreté, les bombardements, particulièrement sur les positions houthis, eh bien, restent malgré tout un véritable problème et sont sans doute ce qu'il conviendrait d'interrompre en premier pour relancer un processus politique. Parce que là, on est seulement dans une situation de conflit qui coûte à l'ensemble des civils et renforce les acteurs miliciens.
Mais justement, est-ce que cette guerre interne, finalement, est-ce que ça profite aux rebelles houthis ou pas? Est-ce que ça leur permet de recharger des batteries? Est-ce que ça leur permet d'avancer? Est-ce que la ligne de front a bougé? Est-ce que les Houthis profitent de ces divisions dans le camp adverse?
Alors d'avancer sur le plan militaire, je ne le pense pas, mais simplement se renforcer dans les terrains qu'ils contrôlent, sans doute tout simplement parce que au nord aujourd'hui les Houthis ne sont pas contestés, alors même que le front de leurs opposants est lui particulièrement fragmenté. Il est fragmenté avec les sudistes et puis le gouvernement dit légitime, mais aussi des islamistes et puis aussi l'ancien président Saleh qui a été donc assassiné en décembre, mais son clan, son entourage et notamment son neveu a pris une option pour se rapprocher du front anti-Houthi et intervenir militairement depuis le sud.
Omar, ce qu'on répète sans cesse et qu'on répétera jamais assez probablement, c'est combien cette guerre coûte au Yémen, coûte en termes de vies humaines, en termes de vie sur place. Le blocus engendre une crise humanitaire qui est quasiment hors de proportion. On avait parlé, Laurent Bonnefoy, ensemble précédemment, de cette épidémie de choléra même qui touche le Yémen. Racontez-nous à quoi ça ressemble, Aden. Comment on vit à Aden, Omar?
Alors Aden est une ville qui porte les stigmates, les traces des combats. De nombreux bâtiments sont en ruine. Hein. Les murs sont criblés d'impacts de balles. Quant à la population, elle ne vit pas. Elle survit. Elle est étranglée par la hausse des prix des produits de base. Rares sont ceux qui peuvent s'acheter de la viande ou du sucre. Le pays s'enfonce littéralement dans la pénurie et la famine. On peut voir souvent dans les rues d'Aden des enfants, parfois des adultes fouillés dans les très nombreuses décharges qui débordent. Les rues sont jonchées de détritus. À Aden, en fait, on a le sentiment que les infrastructures de l'État se sont effondrées.
Et pour comprendre ce que vous nous racontez, Omar, comprendre comment ça se passe réellement au cœur d'Aden, on écoute votre reportage.
Dans les rues bondées d'Aden, les files d'attente devant les stations-service sont impressionnantes. Elles s'étirent sur plusieurs kilomètres. Nasser, au volant de sa vieille 504 Peugeot.
Je fais la queue depuis hier après-midi. Ça fait plus de 24 heures. J'ai passé la nuit dans la voiture, je n'ai rien mangé depuis hier. J'avance doucement, quelques mètres par heure seulement. Je suis très en colère, rien ne va. Toutes ces pénuries, cette crise qui n'en finit pas, c'est insupportable. Je suis épuisé. On a le droit à 40 litres d'essence chacun, ce qui veut dire que dans deux jours, il faudra refaire la queue. Donc ça fait deux jours de travail, deux jours et deux nuits à faire la queue et deux jours de repos. La semaine est fichue.
La vie semble comme à l'arrêt. Les passants ne font même plus attention aux ordures qui s'entassent et qui dégagent des odeurs pestilentiel. Les visages sont émaciés par la faim et la fatigue. Sami Massoud, professeur d'économie à l'université d'Aden.
La faim est répandue partout. Les gens mangent tout ce qu'ils peuvent. Parfois, ils se nourrissent même dans les décharges. Le pays est en train de s'effondrer et tout le monde le sait. Les gens au Yémen sont très pauvres. Le salaire moyen est de $100 par mois. Ils ne peuvent pas offrir le minimum à leur famille, comme le riz ou le sucre. On voit aussi de nombreuses personnes armées qui causent des problèmes. Et si vous dites quelque chose, elles se mettent à tirer. On ne peut pas voyager. On se sent totalement abandonné. On a le sentiment de vivre dans une prison.
Une prison à ciel ouvert où les habitants sont contraints de vivre avec le strict minimum en raison de l'envolée des prix des produits de première nécessité. Même les salaires des fonctionnaires ne sont plus versés. Le capitaine de police Mansour Yassine.
L'État est incapable de rémunérer ses fonctionnaires. En 2017, nous avons reçu 4 mois de salaire sur 12. La situation pousse les gens à perpétrer des crimes, des actes de délinquance. Notre monnaie a beaucoup perdu de sa valeur. Les prix des produits de base ont doublé, voire triplé, ce qui a des conséquences sur le quotidien de la population qui vit aujourd'hui dans la misère. Il faut que la communauté internationale nous vienne en aide. Sinon, le pire peut arriver, car les gens sont parvenus à un point de non-retour.
Et dans ce chaos généralisé, les habitants d'Aden sont de plus en plus nombreux à rejoindre le camp des séparatistes, celui de ceux qui en appellent au retour de la frontière qui séparait avant 1990 le Yémen du Sud au Yémen du Nord. Le metteur en scène Amar Gamal.
La situation après l'unification en 1990 a été horrible, et particulièrement pour les habitants du Sud. Sur le plan culturel, par exemple, nous avons été tout simplement ignorés. Nos grands artistes ont été écartés. Ils sont morts sans aucune reconnaissance. Donc, qu'avons-nous gagné avec cette unification? Rien. Et je vous parle là d'un seul domaine. Interrogez n'importe qui et vous aurez la même réponse pour les autres. C'est pour cela que je crois qu'il vaut mieux deux pays qui se respectent mutuellement plutôt qu'un seul dans lequel nous nous détestons les uns les autres.
Le reportage d'Omar Waman. Laurent Bonnefoy, il faut d'abord dire que la situation sanitaire d'Aden est finalement meilleure que dans beaucoup d'endroits au Yémen. Ils sont presque, j'y mets beaucoup de guillemets, presque privilégiés dans cette ville-là.
Oui, et c'est ça qui illustre, quand on écoute le reportage, je dirais l'incurie de la politique de la coalition, qui aurait très bien pu faire d'Aden une forme de vitrine. La ville a été libérée il y a 2 ans et demi par la coalition de l'emprise Houthi, et pourtant on a l'impression que rien n'a été fait. C'est une situation privilégiée tout simplement parce que la ville ne souffre pas autant que le reste du pays du blocus qui est imposé par l'Arabie.
Et que Sanaa, donc, j'imagine, qui souffre plus. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on peut avoir accès au moins à ça, à quelques informations ou pas?
Oui, il y a des informations. Il y a les problèmes liés, je pense, au paiement des loyers qui ne sont tout simplement pas faits. Mais malgré tout, il y a, et c'est ça qui est aussi assez fascinant, une forme de capacité de la société à se maintenir, notamment parce que elle est, c'est une société qui est encore très rurale, et donc il y a des ressources qui sont mobilisées. Et je pense que la situation est presque plus difficile dans les villes qu'elle ne l'est dans les campagnes.
Et jusqu'où peut aller l'exaspération de la population? On l'entendait là dans le reportage d'Amar, des gens se rallier finalement au camp des séparatistes et dire on était mieux quand on était séparés. Jusqu'où peut aller cette exaspération?
Oui, elle peut aller tout simplement à une fragmentation, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que le vrai problème et l'illusion, c'est de croire qu'on reviendra à une situation avec deux États, avec un État au sud qui serait centralisé. Or, le problème, c'est qu'on va vers de multiples petits États qui ne contrôleront effectivement pas grand-chose et seront dépourvus de ressources.
Et j'ose même pas vous demander ce que fait la communauté internationale, parce que j'ai peur que vous me disiez rien, mon capitaine. Oui.
Non, alors il y a un certain nombre d'initiatives, et je pense que ce serait extrêmement sévère et sans doute injuste de penser que rien n'est fait. Mais tout simplement, on a l'impression qu'aujourd'hui, la priorité n'est pas là. Et pourtant, le Yémen, et c'est quelque chose que j'essaie de montrer dans mon livre, eh bien, est caractérisé par justement le fait que c'est le réceptacle de nombreuses dynamiques qui auront aussi des échos à l'échelle régionale et dans le monde.
Et le livre s'appelle « Le Yémen de l'Arabie, heureuse à la guerre » chez Fayard. Laurent Bonnefoy, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci mille fois de votre passage dans Un jour dans le monde. Omar Waman, merci également, bien sûr.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, comment dit-on en marche en anglais? Let's walk peut-être, mais ça marche moyen pour un parti. En tout cas, c'est l'inspiration en marche d'un parti politique qui est en train de naître et qui veut revenir en arrière sur le Brexit. On verra si tout cela a du sens. À suivre aussi, Grégory Philips, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Trump, saison 2, Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être alors.
Oui, une petite fille de 7 ans qui écrit à Trump pour dénoncer les fusillades. Et puis on parlera aussi un petit peu, évidemment, du Super Bowl.
Et voilà, Jean-Marc Four qui met le monde à l'envers. Jean-Marc, on a les hommes providentiels et les recours qu'on mérite.
C'est ça, bonsoir Fabienne. En politique, on ne meurt jamais. En voici encore une preuve. Le retour du caïman. Berlusconi sera-t-il le sauveur de l'Italie?
Allez, à tout à l'heure. Le tour du monde n'est pas fini. Dans Un jour dans le monde, voici Imaran Asman sur France Inter. Le refaire correctement. Imaran sur France Inter, Asman.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
J'aime bien quand j'ai une deuxième chance sur la musique. Sous les radars se cache Florence Paracuelos avec l'info internationale qui vous a échappé. Florence, la première escale est au Cap, en Afrique du Sud, la deuxième ville du pays.
Oui, le Cap où un sujet monopolise toutes les conversations, c'est l'eau. L'eau courante va-t-elle être coupée pour tout le monde le 16 avril, date fatidique, day zero, où les réserves de la ville ne seront plus que de 13%. Elles étaient à 25% la semaine dernière. Sécheresse historique. En plein été austral, la pression des robinets a déjà été réduite. Les habitants du Cap doivent maintenant gérer la pénurie pour éviter le désastre. C'est le mot employé par la première ministre de la province, Hélène Zille, qui donne ses instructions aux 4 millions d'habitants concernés. Attention, pas plus de 50 litres d'eau par personne et par jour.
For example, switch off.
Par exemple, coupez l'arrivée d'eau de vos toilettes et utilisez toutes les eaux usées de la maison. Vous les gardez et vous les mettez dans le réservoir. Et vous tirez la chasse seulement quand c'est indispensable. En l'état, personne ne doit prendre plus de 2 douches par semaine. Il n'y a pas de mal à utiliser les bonnes vieilles méthodes, comme faire sa toilette dans une bassine, ce que beaucoup d'entre nous font, et c'est très bien, c'est très propre. Et puis ça permet de garder l'eau pour la mettre dans la chasse d'eau. Tout ça pour vous dire qu'il faut que vous préserviez l'eau comme si votre vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Message à la fois trivial et solennel. Et la première ministre du Cap y met aussi du sien en postant des photos de ses pieds nus dans une bassine. Elle est en train de se laver parce qu'il y a vraiment urgence. La vente d'eau en bouteille dans les supermarchés est rationnée. C'est la ruée sur une source naturelle du Cap, désormais surveillée par la police. Des épidémies font leur apparition, la listériose et la typhoïde. Et toujours pas de pluie en perspective. Alors si le jour zéro arrive, si on coupe l'eau pour tout le monde, comment éviter l'anarchie, se demande seconde Hélène Zille. Les autorités ont calculé qu'à ce moment-là, 5000 personnes minimum se retrouveraient tous les jours au point de distribution d'eau. On dirait un film catastrophe. Sur froide au Caire, avant-poste du changement climatique.
Et on y reviendra. Tiens, je vous le dis tout de suite en reportage, Florence, ce sera la semaine prochaine dans Un jour dans le monde sur cette pénurie et l'arrivée, la crainte du fameux jour zéro. On passe à l'Inde avec sur les écrans cette semaine une production bollywoodienne sacrément culottée.
Et oui, c'est le cas de le dire. Le film s'appelle Padman, littéralement l'homme tampon ou l'histoire vraie d'un homme qui a changé la vie des femmes.
Woman strong, mother strong, sister strong, then country strong.
C'est l'histoire d'Arunachalam Muruganantham, modeste soudeur du Tamil Nadu. Un jour, il s'aperçoit que sa femme utilise de vieux chiffons quand elle a ses règles. Il s'en émeut, c'est le gardien qui raconte, et sa femme lui dit qu'elle aimerait bien utiliser des serviettes hygiéniques, mais que ça coûte trop cher, que le foyer ne peut pas se le permettre. Cet homme va alors se lancer dans un projet qui va le faire passer pour un dingue. Les règles, partout dans le monde, c'est un sujet tabou. En Inde, c'est pire, on ne parle pas de ces choses-là, pas même entre femmes. Du coup, personne ne s'intéresse à la question, c'est comme si ça n'existait pas. Peu importe que 80% des Indiennes n'aient pas accès aux produits d'hygiène, qu'un quart des ados ne puissent pas aller à l'école. Quand elles ont leurs règles, tout le monde s'en fout. Sauf Arunachalam qui va s'intéresser à la question, fabriquer des prototypes qui ne coûtent pas cher à produire avec du coton local, les essayer, trouver un modèle économique. Dans son village, tout le monde l'a insulté, sa femme l'a quitté, sa mère même l'a rejeté, c'est dire si le sujet dérange. Jusqu'en 2009 et sa consécration, cette année-là, Arunachalam reçoit le prix de la Fondation pour l'innovation en Inde. 5 ans plus tard, en 2014, il était nommé parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde dans Times. Désormais, il est Padman, héros bollywoodien, et il espère que le film va encore faire avancer la cause.
Et l'histoire ne dit pas si du coup sa femme est revenue.
Et je crois que sa femme est revenue.
Ah bah voilà, ouais. Enfin une histoire qui se termine bien. Florence Paracuelos dans Un jour dans le monde, merci.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20,
le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde,
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need.
Allez, nous partons pour le Royaume-Uni qui tente plutôt de rester uni. Je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est que cette femme qui chante derrière nous, pourquoi elle chante ça si mal, c'est vrai, mais vous allez voir tout à l'heure. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir Fabien.
Antoine, il semble qu'une partie des Anglais se rebiffe, en tout cas un mouvement est en train de naître, il s'appelle Renew comme renouveau et il essaye de renverser la vapeur après le vote sur le Brexit, racontez-nous.
Ah oui, ça ressemble furieusement surtout à l'initiative prise par Emmanuel Macron lorsqu'il a lancé la République en marche. Les Britanniques ont créé ce week-end un nouveau parti, il s'appelle Renew et il s'inspire directement de l'expérience française avec des fondateurs qui pour la plupart se sont présentés aux dernières élections comme candidats indépendants et qui veulent maintenant attirer les non-professionnels de la politique avec un seul mot d'ordre, il faut arrêter le Brexit. L'initiative en fait est restée secrète jusqu'à ces derniers jours, même le compte officiel de Twitter de Renew n'en parlait pas, il compte pourtant déjà 3500 followers et il y a eu donc un premier rassemblement samedi des militants et des futurs candidats aux élections locales qui se lancent à la conquête du Royaume-Uni.
Donc des militants, futurs candidats que vous avez pu rencontrer vous?
Oui, parce que la réunion se tenait en principe sans la presse, là aussi on s'inspire de la méthode Macron, ils ont leur propre équipe de télé, leur propre photographe, mais nous avons tout de même réussi à les trouver dans un immeuble du centre de Londres, tout près d'ailleurs de Downing Street.
Ah ben voilà. C'est peut-être un signe. Allez, on écoute votre reportage, Antoine. On se retrouve juste après.
La carte des circonscriptions est scotchée sur le mur avec les noms des candidats, 220 pour l'instant, essentiellement des jeunes. Hasib Urriman est avocat, écœuré par le Brexit et déçu par les partis politiques traditionnels.
Ils ne représentent plus correctement la volonté des gens. Ils ne font que jouer au jeu des chaises musicales entre conservateurs et travaillistes. Ici, c'est un vrai mouvement qui part du bas dont je veux faire partie. Plus les conséquences négatives du Brexit deviennent claires, plus nous avons du monde avec nous.
Car les derniers sondages le montrent, les Britanniques qui ont voté pour le Brexit sont de plus en plus nombreux à dire qu'ils regrettent leur choix. Et c'est à eux que Sandra Kadouri veut s'adresser. Elle est porte-parole du nouveau parti.
Nous avons déjà identifié les problèmes les plus importants et nous devons tourner notre attention vers les laissés pour compte, ceux qui pensent qu'ils n'ont rien gagné au libéralisme, ceux dont les salaires n'ont pas augmenté, ceux qui craignent pour leur emploi, pour leur communauté, pour leurs services de santé. Il y a aussi beaucoup de rancœur vis-à-vis de Londres. Il faut regarder ça de près, revenir vers ces gens, leur demander pourquoi ils sont en colère et comment on peut les aider, leur demander pardon de les avoir négligés pendant si longtemps.
Et pour aller à la rencontre des électeurs, les militants de Renew calquent leur stratégie sur celle d'Emmanuel Macron. Ils démarrent cette semaine une tournée dans l'ensemble du Royaume-Uni, explique l'un des fondateurs francophones du parti qui veut rester anonyme.
On a très peu de temps, on suit exactement l'exemple de votre monsieur Macron, c'est-à-dire on va faire le tour de la Grande-Bretagne et où on va leur demander des questions. En France, la première question c'était qu'est-ce qui ne va pas avec la France, je crois. Nous on va faire la même chose. What is wrong with Great Britain? Après ça, on va pouvoir leur expliquer, ben, nous voilà, nous sommes nouveaux. Nous sommes ni conservateurs ni socialistes. Suivez-nous.
Suivez-nous et financez-nous. C'est ce qui est écrit sur le site internet du nouveau parti. Reste une difficulté. Renew n'a aujourd'hui aucun chef de file emblématique. Mais pas de panique, explique Hugo Lucas. Il est étudiant et futur candidat à Chelsea et Fulham.
Bien que ce qu'a fait Macron en France est très impressionnant, nous avons besoin de plus qu'une personne très charismatique. On est sur des problèmes de fond. C'est pour ça qu'on n'a pas encore choisi de leader à ce stade.
En attendant, les militants ont désigné 3 représentants issus des classes moyennes et ouvrières pour se préparer à d'éventuelles législatives, partielles ou anticipées, avant le scrutin prévu en 2020.
Antoine, il y a des réactions à la création de ce nouveau parti ou pour l'instant ça n'inquiète personne?
Il y en a surtout dans les tabloïds ce soir des réactions. Le Daily Express, le Sun, traditionnellement pro-Brexit, est inquiet d'apprendre dans la presse française l'existence de ceux qu'ils appellent désormais les saboteurs. C'est écrit en gros sur le site internet parce que ce nouveau parti cherche évidemment à rassembler à droite comme à gauche tous ceux qui s'opposent à l'Union, à la sortie de l'Union Européenne.
Mais alors, pardon de vous le dire comme ça, on comprend bien qu'une partie des Anglais semble un peu sortie du commun et voudrait qu'on revienne en arrière, mais c'est vrai, si on en croit les sondages, vous l'avez dit, que les anti-Brexit sont passés devant les pro-Brexit, mais au milieu de ça, il y a une sorte de personnage qui essaie de se montrer, qui essaie de faire sa place, et étonnamment ça marche, vous nous la présentez rapidement?
Absolument, elle s'appelle Madeleine Kay, elle a 23 ans, et elle est en train de devenir l'égérie des anti-Brexit. Ici, on la connaît uniquement sous le nom de Supergirl, parce qu'elle est à toutes les réunions, toutes les manifestations, vous allez sans doute voir des photos dans la presse prochainement, elle est blonde platine, déguisée en costume de Superman ou Superwoman, une guitare à la main, et elle chante des chansons pour mobiliser les troupes.
Alors justement, tiens, voilà un petit bout de ce qu'elle chante, et je vous préviens, on va pas l'entendre longtemps, parce que c'est super baroque, et surtout, c'est pas du tout de saison, c'est absolument terrible, si je puis me permettre. Alors donc sur l'air de Mariah Carey, je préfère vous le dire, peut-être que vous ne l'aurez pas noté tout seul, elle dit qu'elle en a marre des mensonges, elle veut que rien ne change, elle veut pas de nouvelles frontières, et cette jeune femme, donc Madeleine Kay, pardon, elle parle aussi.
La première chose que j'ai faite le lendemain du référendum, c'est d'attraper ma guitare pour écrire une chanson de protestation. Ce n'était pas une très bonne chanson, mais après que j'ai enfilé mon costume de Supergirl européenne, ça a fait une publicité énorme au mouvement anti-Brexit. Ça nous a donné une visibilité supérieure à celle qu'il y a eu le jour où 100 000 personnes ont défilé dans les rues de Londres. Une seule personne peut avoir un impact énorme. Et collectivement, on peut aussi avoir un gros impact à partir du moment où vous arrivez à descendre dans la rue et à faire changer d'avis, ne serait-ce qu'une seule personne. C'est déjà fantastique. Moi, j'ai envie de dire à Theresa May qu'il faut faire passer la prospérité du pays avant la politique et qu'il faut qu'elle agisse dans l'intérêt du pays et de la jeunesse qui va devoir vivre avec le futur qu'elle est en train de créer. Si on n'arrive pas à arrêter le Brexit, notre génération se battra pour revenir dans l'Union européenne. Si on arrive à créer un gouvernement de coalition avec des libéraux démocrates, les verts et les travaillistes, il y a de grandes chances qu'on arrive à obtenir un second référendum et qu'on se positionne en faveur du maintien dans l'Union européenne.
Alors Antoine, c'est vraiment sérieux? Non mais sérieusement, ça marche vraiment les actions de cette jeune femme? Ça buzz vraiment? Ça a du sens pour les anti-Brexit ou pas?
Eh bien étonnamment, oui, ça marche étonnamment. Elle est invitée sur tous les plateaux de télévision, à la BBC, sur Sky News, dans les journaux. Elle a près de 20 000 personnes qui la suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elle est devenue en quelques mois incontournable. C'est aujourd'hui l'image, le symbole presque de ceux qui refusent de sortir de l'Union Européenne.
Bah écoutez, si vous la croisez, n'hésitez pas à l'inviter dans un jour dans le monde parce que ça m'intrigue terriblement. Une dernière chose, je disais tout à l'heure avec méchanceté que certains Anglais sont en train de sortir du coma, mais il y a eu un vote, Antoine. Le retour en arrière, c'est pas un fantasme, ça ?
C'est sûr, c'est compliqué hein, d'imaginer aujourd'hui un revirement total, mais en théorie, ce n'est pas impossible. D'ailleurs, Lord Kerr, le rédacteur de l'article 50 qui a été activé par le Royaume-Uni pour quitter l'Union européenne, dit lui-même « ce processus est réversible ». Il n'y a en fait aucune règle, aucune loi qui interdit aux Britanniques de tout arrêter et de revenir vers Bruxelles. Et puis, il faut prendre en compte aussi les sondages. Le nombre varie aujourd'hui suivant les instituts, mais les Britanniques sont désormais entre 37 et 50%, 1 sur 2, à dire qu'ils souhaitent un nouveau référendum.
Bah écoutez, on suivra ça avec vous, on verra si ce retour en arrière est possible. Vous savez, on va aller là tout de suite rejoindre Grégory Philips. On a un peu l'impression d'entendre Trump ne finira pas ses 4 ans. Bah écoutez, on verra bien si c'est la même chose. Merci Antoine.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Et l'actu en série du lundi, c'est Trump, saison 2, justement, avec vous, Grégory Philips. Il est là et il est bien là, votre président Grégory. On va revenir un peu sur l'affaire du FBI une fois de plus, juste avant. Vous avez passé le Super Bowl la nuit dernière, la nuit de dimanche à lundi. J'imagine qu'il a regardé, comme tout le monde, votre ami Trump.
Ah bah non, pas forcément, parce qu'à l'heure de la finale, Trump quittait Mar-a-Lago en Floride pour regagner Washington. Vous me direz, il y a la télévision à bord d'Air Force One, mais en tout cas, le président n'était pas chez lui devant son écran, comme à peu près 110 millions d'Américains. L'audience télé hier soir d'ailleurs était un peu plus basse que d'habitude, alors Trump l'a-t-il fait exprès peut-être. Vous vous souvenez qu'au début de l'automne, il y avait eu un gros bras de fer entre la Maison-Blanche, la NFL et certains footballeurs qui mettaient le genou à terre pendant l'hymne américain. Donc Trump a-t-il voulu envoyer un signal en ne regardant pas la finale? Ça c'est à déterminer.
Eh bah écoutez, on verra ça. On verra s'il y aura même une polémique sur l'histoire de Justin Timberlake, qui chantait en vrai ou qui chantait pas en vrai. Dans l'actualité américaine, surtout, j'allais dire, cette histoire de mémo qui fait la une encore une fois de plus chez vous. C'est un petit peu filandreux, c'est un mémo qui a été rédigé par des parlementaires républicains et qui tendrait à prouver que le FBI est anti-Trump. C'est bon pour Donald Trump ça, Grégory?
Oui, en tout cas, samedi, depuis Mar-a-Lago, Donald Trump a estimé que la publication de ce mémo l'innocentait totalement dans le cadre de cette enquête russe, même si, a-t-il écrit, il y avait contre lui une chasse aux sorcières. En vérité, l'enquête, Fabienne, est loin d'être terminée. Écoutez ce qu'en dit Boris Toukas, il est chercheur invité au Centre d'études internationales et stratégiques ici à Washington, et je lui ai demandé tout à l'heure ce qui pouvait se passer maintenant.
L'enquête du conseiller spécial Mueller n'est pas terminée. Elle pourrait déboucher soit sur une absence de preuves, soit sur des preuves liées à une éventuelle collusion durant la campagne électorale entre la campagne Trump et la Russie, ou alors déboucher sur des accusations annexes, par exemple des tentatives d'obstruction à la justice. C'est la possibilité qui est le plus discutée à Washington en ce moment. Ensuite, la question est de savoir si une obstruction à la justice serait un handicap pour le président. En réalité, la seule manière de démettre le président, ce serait d'aller vers une procédure d'impeachment. Et c'est impossible tant que le président dispose d'une majorité confortable à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. Pour qu'il y ait une procédure de destitution, il faudrait d'abord que les républicains perdent la majorité à la Chambre des représentants, ce qui pourrait arriver aux midterm elections éventuellement. Et ensuite, qu'il y ait des faits extrêmement graves, puisque le Sénat doit se prononcer à la majorité des deux tiers. Donc il faudrait que de nombreux républicains changent de camp.
Autrement dit, c'est pas demain.
C'est pas demain, non.
Voilà, et si ça vous intéresse, Fabienne, je vous renvoie à un très bon papier de Boris Toukas paru il y a quelques semaines sur le site de l'IFRI, l'affaire russe, la démocratie américaine ébranlée. Vraiment, ça résume pas mal ce qui est en train de se jouer ici à Washington.
Eh ben, on ira regarder Donald Trump, toujours avec la réponse du président, Grégory, au courrier d'une petite fille. Elle a 7 ans, elle s'appelle Ava, et elle a écrit au président pour dénoncer les armes à feu qui pullulent dans le pays.
Oui, alors, histoire assez poignante. La petite Ava Olsen habite Tonville, en Caroline du Sud, et en septembre 2016, il y a eu une fusillade près de son école. Son copain Jacob, 6 ans, a été tué. Et ce qu'a fait Ava, donc, c'est qu'elle a écrit à Donald Trump pour raconter combien elle aimait ce petit garçon et surtout lui demander ce qu'il comptait faire pour protéger les enfants. Et juste après Noël, en réponse, elle a reçu un courrier de la Maison-Blanche.
Et donc, la réponse de Trump ?
Une lettre dactylographiée signée de la main du président dans laquelle il assure qu'il fera tout pour faire en sorte que les enfants américains puissent grandir et étudier en sécurité. Et comme cette petite Ava a de la suite dans les idées, elle a trouvé que le président ne lui disait pas comment il comptait s'y prendre. Elle a donc écrit une seconde lettre à la Maison Blanche pour lui donner quelques pistes de solutions.
Et on verra s'il répond pour la seconde fois. Est-ce que ça lui arrive souvent, Donald Trump, de répondre directement aux courriers qui lui sont adressés ?
Alors, on a posé la question à sa porte-parole. La Maison-Blanche ne dit pas à quelle fréquence, mais assure que oui. Et le Washington Post, dans lequel j'ai trouvé cette histoire, raconte qu'Obama, lui, avait l'habitude chaque soir de lire 10 courriers d'Américains, à peu près tous les jours, et d'y répondre à la main quand il avait le temps. Trump, donc, en répondant à cette petite fille, est à peu près sur le même modèle, mais on ne connaît pas la fréquence de ces échanges.
Allez, merci beaucoup, Grégory Phillips. Et Trump, saison 2 dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers, signé Jean-Marc Four, comme tous les soirs dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, on est un mois, jour pour jour, avant les élections en Italie. Voilà, 4
c'est
mars.
C'est le 4 mars.
50 millions d'Italiens qui iront aux urnes. C'est vrai qu'on en parle assez peu, mais on aura l'occasion d'y revenir. Climat de campagne délétère, fusillade raciste, c'était ce week-end ou
hier,
dimanche.
Dans le centre
hier dimanche.
De l'Italie,
oui. Dans ce climat, voilà qu'un homme apparaît comme un recours. Et cet homme, on se pince un peu pour y croire, il s'appelle Berlusconi. Et c'est votre Monde à l'envers ce soir, le recours. Il va falloir s'y faire alors.
Mais oui Fabienne, je vous parle bien de Silvio Berlusconi. Le Silvio Berlusconi, multirécidiviste, 30 procès au curriculum vitae, condamné pour prostitution de mineurs, relaxé en appel, condamné pour fraude fiscale, il est inéligible pour un an encore au moins. Oui oui, Berlusconi, contraint à la démission de son poste de chef du gouvernement, de président du conseil en 2011. Berlusconi et ses frasques, Berlusconi et son empire médiatico-footballistique déchu, Berlusconi, son opération à cœur ouvert, ses implants capillaires, ses lifting en série, etc. Berlusconi, 81 ans. C'est bien de ce Berlusconi-là dont je vous parle. Inéligible, on le répète, il ne peut pas être élu. Et pourtant, à un mois du scrutin, c'est bien lui qui domine la campagne, lui qui est en position de force, lui qui était encore hier soir à la télévision. Berlusconi donc apparaît à beaucoup comme le meilleur recours. C'est tout bonnement incroyable, mais c'est vrai. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il y a de très bonnes raisons à ça.
Alors, est-ce que ça va si mal que ça en Italie, Jean-Marc,
pour que Berlusconi soit le recours ? Ça va pas très fort, et c'est ça la première raison. Le bilan des sortants de centre-gauche, Matteo Renzi en tête, n'est pas flamboyant. Soit dit en passant, Renzi a 43 ans. Ça prouve que le charme de la jeunesse ne garantit pas le succès politique. Hein. Mais bon, là, je sens que je m'égare.
Oui.
Donc, le chômage a cessé de baisser. Officiellement, il se situe à 11%. Officieusement, selon la Banque Centrale Européenne, il tournerait plutôt vers 18%. La croissance mollassonne, 1,5. Le déclin industriel n'est pas enrayé. Dans le sud du pays, le niveau de vie a baissé. Dans le nord, l'immigration provoque des tensions. Et il y a 2 ans, vous en souvenez peut-être, Renzi a échoué dans son grand projet, la réforme constitutionnelle. Du coup, le centre-gauche est dans les choux et il ne peut pas gagner le scrutin. Effet en chaîne, les populismes prospèrent. Et c'est là où ça devient encore plus fort. Berlusconi apparaît aussi comme un recours contre les populismes.
Et donc là, on se pince encore quand même. Pour barrer la route des populismes divers, il n'y a que lui.
Ça a l'air d'une blague, parce que dans le genre populiste, vous avez raison, Berlusconi se pose là. Mais ce n'est pas une blague. Parce que dans cette campagne italienne, il y a plus populiste que lui. Des deux côtés. D'abord, ses alliés au sein de la coalition des droites. La Ligue du Nord de Matteo Salvini, clairement xénophobe, incapable de condamner la fusillade raciste d'hier à Macerata dont on parlait dans le centre du pays. Et le petit parti Fratelli d'Italia, frère d'Italie, qui lui est ouvertement néofasciste. Avant l'entrée en campagne de Berlusconi, la Ligue du Nord dominait cette coalition de droite. Désormais, le parti de Berlusconi, Forza Italia, a pris l'avantage et c'est donc lui, en cas de succès de cette coalition, qui formerait le gouvernement. Ensuite, de l'autre côté, il y a l'autre grand parti populiste, le mouvement 5 étoiles de l'ex-humoriste Beppe Grillo. Il a le vent en poupe chez les jeunes, mais on ne sait pas trop où le classer sur l'échiquier politique et son côté imprévisible inquiète, en particulier parmi les dirigeants européens. Et résultat des courses, eh bien quoi, Berlusconi apparaît aux Italiens comme un gage de stabilité, après tout il connaît le boulot, et aux Européens comme un rempart contre ses excès populistes.
Enfin, ça reste quand même Berlusconi, quoi.
Ça reste Berlusconi, hein. Et d'ailleurs, dans cette campagne, il fait du Berlusconi pur jus. Il promet qu'il va raser gratis, allez hop, 1000 euros de retraite minimum, qui va baisser les impôts, ça marche toujours, qui va lutter contre l'immigration, passage obligé, et ça plaît. En particulier auprès de l'électorat âgé, qui est essentiel en Italie, puisque les plus de 55 ans représentent 40% de l'électorat. Pour faire bonne mesure, il a même ajouté une corde à son arc, celle de la compassion. Il se fait prendre en photo un agneau dans les bras parce qu'il est devenu défenseur des animaux. Je sais, cherchez en tout cas la photo sur l'internet si vous ne l'avez
terrible.
Pas vue. Voilà, celle-là, elle vaut son pesant de cacahuète. Hein. Et il se pose comme ça en patriarche, incarnation de la sagesse. Voyez, écoutez la musique du parrain. C'est lui, désormais le parrain de la droite italienne, Marlon Brando et Al Pacino à lui tout seul. L'homme qui tire les ficelles, le maître du jeu. Berlusconi en sauveur, va falloir s'y faire.
Eh oui, il faudra s'y faire. Bon, on en reparlera d'ailleurs, tiens, dans Un jour dans le monde, du parrain Berlusconi avant ces élections du 4 mars. Jean-Marc Fauré, Le Monde à l'envers, merci.